Tout travail comporte son lot de surprises. Un rouage se grippe, un accident de la route provoque une déviation. Un client vous appelle pour vous dire que vous avez remporté l'appel d'offres, mais qu'il a besoin d'être livré 3 mois plus tôt que prévu. Si ce genre d'avanie s'est déjà produit par le passé, votre employeur a sans doute mis en place un système et des procédures spécifiques pour parer à de telles éventualités. Mais même les structures les mieux organisées ne peuvent pas tout anticiper. Et en cas d'imprévu, vous apprenez à improviser pour atteindre malgré tout vos objectifs, ou du moins pour minimiser les pertes. La présidence ne faisait pas exception à la règle. Sauf que des surprises, il en arrivait tous les jours, et souvent en cascade. Et au cours du printemps et de l'été de cette première année, alors que nous étions aux prises avec la crise financière, deux guerres et la mise en branle de la réforme du système de santé, plusieurs événements inattendus sont venus s'ajouter à notre cahier des charges déjà bien rempli. Le premier était potentiellement annonciateur d'une véritable catastrophe. En avril, nous avons commencé à recevoir des signaux d'alerte sur une inquiétante épidémie de grippe au Mexique. Le virus de la grippe touche en général les populations les plus fragiles, telles que les personnes âgées, les nourrissons ou les asthmatiques. Mais cette souche particulière semblait frapper également des gens jeunes et en bonne santé, et le taux de mortalité était plus élevé que d'habitude. En l'espace de quelques semaines, le virus s'est propagé aux États-Unis. Une personne contaminée recensée dans l'Ohio, 2 au Kansas, 8 dans un seul et même lycée à New York. À la fin du mois, nos centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, étaient en mesure de confirmer qu'il s'agissait d'une variante du virus H1N1. En juin, l'OMS faisait officiellement état de la première pandémie depuis 40 ans. Il se trouve que je connaissais bien le virus H1N1, pour avoir travaillé sur nos dispositifs de réaction en cas de pandémie lorsque je siégeais au Sénat. Et ce que j'avais appris était tout bonnement terrifiant. En 1918, une souche de ce virus, communément appelée grippe espagnole, avait contaminé 1,5 milliard de personnes, selon les estimations, et fait entre 50 et 100 millions de victimes, soit environ 4% de la population mondiale. Rien qu'à Philadelphie, plus de 12 000 personnes y avaient succombé en quelques semaines à peine. Mais les conséquences allaient bien au-delà de ce bilan humain ahurissant et du coup d'arrêt porté à l'ensemble de l'activité économique. Comme le démontreraient certaines études, les individus conçus pendant la période de la pandémie avaient par la suite été touchés en plus grande proportion que la moyenne par la précarité, l'échec scolaire et toutes sortes de handicaps physiques. Il était trop tôt pour savoir à quel point ce nouveau virus serait létal, mais je n'avais pas l'intention de prendre le moindre risque. Le jour même de la nomination de Kathleen Sebelius au poste de secrétaire du HHS, nous avons envoyé un avion pour la faire venir du Kansas, et tout de suite après une brève cérémonie d'investiture plus ou moins improvisée, nous lui avons demandé de diriger une téléconférence de 2 heures avec les dirigeants de l'OMS et les ministres de la Santé du Mexique et du Canada. Quelques jours plus tard, nous avons mis sur pied une équipe constituée de membres de diverses agences chargée d'évaluer le degré de préparation des États-Unis face au pire des scénarios. Verdict, nous n'étions pas prêts du tout. Les doses administrées dans le cadre de la campagne de vaccination annuelle n'étaient d'aucune efficacité contre le H1N1, et comme les vaccins n'étaient pas une source de revenus importante de manière générale pour les compagnies pharmaceutiques, les quelques laboratoires américains qui en fabriquaient n'étaient pas en mesure de lancer la production d'un nouveau vaccin approprié en quantité suffisante. Se posait ensuite le problème de savoir comment distribuer les médicaments antiviraux, la question des protocoles mis en place dans les hôpitaux pour traiter les personnes touchées par la grippe, et il fallait même envisager la possibilité d'une fermeture des écoles et l'instauration de quarantaines si la situation s'aggravait de manière significative. Plusieurs anciens collaborateurs de l'administration Ford, qui avaient dû faire face à l'épidémie de grippe porcine en 1976, nous ont mis en garde contre une campagne d'information publique trop précoce, qui pourrait se révéler disproportionnée et risquait par ailleurs de déclencher un mouvement de panique. Apparemment, le président Ford, qui briguait alors un deuxième mandat et voulait faire la preuve de sa capacité à prendre des décisions fortes, avait lancé à la hâte une campagne de vaccination obligatoire avant même que la gravité de la pandémie ait été évaluée. Résultat, la grippe porcine avait fait au bout du compte moins de victimes que le vaccin lui-même, qui avait entraîné des troubles neurologiques chez certains patients. « Il faut que vous soyez impliqué, monsieur le président », m'a intimé l'un des anciens conseillers de Ford, « mais il faut aussi que vous laissiez les experts prendre la main. » J'ai passé un bras autour des épaules de Sebelius. « Vous voyez ce visage ?» ai-je dit en hochant la tête vers elle. « Eh bien, le voilà, le visage du virus. Félicitations, Kathleen. À votre service, monsieur le président. » a-t-elle répliqué avec entrain. « À votre service. » Les instructions que j'ai données à Kathleen et à l'équipe chargée des questions de santé publique étaient simples. Nous fonderions nos décisions sur les meilleurs avis scientifiques possibles et nous expliquerions à la population chacune des étapes de notre dispositif, point par point, en ne cachant rien de ce que nous savions, mais aussi de ce que nous ne savions pas. Et pendant les 6 mois suivants, c'est exactement ce que nous avons fait. Une décrue du nombre de contaminations durant l'été a donné le temps à l'équipe de travailler en concertation avec les fabricants pharmaceutiques et de favoriser la mise en place de protocoles permettant la production accélérée de vaccins. Ils ont pu fournir de nouveaux équipements médicaux au niveau local et procurer aux hôpitaux une plus grande flexibilité en vue d'une possible recrudescence de cas de contamination. Ils ont étudié, et finalement rejeté, l'idée de fermer les écoles pour le reste de l'année, tout en travaillant de concert avec la direction des secteurs scolaires, les entreprises ainsi que les élus locaux et nationaux, afin de s'assurer que tout le monde disposait des ressources nécessaires pour faire face à la crise. Même si les États-Unis n'ont pas été entièrement épargnés, le virus a coûté la vie à plus de 12 000 Américains, nous avons constaté avec soulagement que cette souche particulière du H1N1 avait été moins mortelle que ne l'avaient craint les experts. Et quand la pandémie a entamé un recul vers le milieu de l'année 2010, la nouvelle n'a même pas fait les gros titres de la presse. Il n'en reste pas moins que j'étais extrêmement fier du travail accompli par nos équipes. Sans fanfare ni trompette, non seulement elles avaient réussi à contenir le virus, mais elles avaient par la même occasion renforcé notre capacité de réaction en cas de future crise sanitaire, ce qui se révélerait salutaire quelques années plus tard, face au mouvement de panique provoqué par l'irruption du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Telle était la nature de la présidence, venais-je de comprendre. Parfois, l'essentiel de votre travail pouvait passer totalement inaperçu. Quant au deuxième événement imprévu, il s'agissait moins d'une crise à gérer que d'une opportunité à saisir. À la fin du mois d'avril, le juge à la Cour suprême, David Souter, m'a appelé pour m'informer qu'il prenait sa retraite, ce qui allait me donner l'occasion pour la première fois de pourvoir un poste vacant au sein de la plus haute institution judiciaire du pays. Obtenir la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême n'a jamais été une partie de plaisir, notamment parce que le rôle de cette Cour de justice au sein des institutions américaines a toujours fait l'objet de controverses. Après tout, l'idée d'octroyer à 9 avocats non élus et désignés à vie le pouvoir d'invalider des lois votées par une majorité des représentants du peuple n'a rien, a priori, de très démocratique. Mais depuis l'arrêt Marbury versus Madison, la décision de la Cour suprême en 1803 qui donnait à celle-ci le dernier mot sur l'interprétation de la Constitution américaine et établissait le principe d'un contrôle judiciaire sur les actions du Congrès et du président, c'est ainsi que fonctionne notre système d'équilibre des pouvoirs. En théorie, les juges de la Cour suprême ne font pas la loi lorsqu'ils exercent ses prérogatives. Ils sont simplement censés interpréter la Constitution et aider à concilier ses dispositions telles que les comprenaient ses rédacteurs à l'origine et telles qu'elles peuvent s'appliquer aujourd'hui. Dans la majorité des cas sur lesquels la Cour doit se prononcer, cette théorie fonctionne plutôt bien. Les juges, pour l'essentiel, veillent à respecter la lettre de la Constitution et les précédents créés par les décisions de justice antérieures, même quand les conclusions auxquelles ils arrivent ainsi ne correspondent pas forcément à leurs convictions personnelles. Au cours de l'histoire des États-Unis, toutefois, les cas les plus importants les ont amenés à devoir éclaircir la signification de termes tels que « procédure équitable »,« privilège et immunité »,« protection égale » ou « établissement des religions », des termes si vagues que les pères fondateurs eux-mêmes devaient sans doute en avoir chacun une conception différente. Cette ambiguïté octroie de facto aux juges une marge d'interprétation qui leur permet d'infléchir leurs décisions selon leurs convictions morales, leur inclination politique, leurs propres préjugés et leurs craintes personnelles. C'est ainsi, dans les années 1930, qu'une Cour suprême composée en majorité de juges conservateurs décréta que la Constitution attribuait au Congrès le pouvoir quasi illimité de réguler l'économie. Et c'est ainsi que les juges chargés de se prononcer sur le cas Plessy versus Ferguson en 1896 interprétèrent la clause dite d'égale protection de telle sorte que leur décision valida le concept « séparé mais égaux », ouvrant ainsi la voie à la ségrégation. Tandis que ceux qui statuèrent sur le cas Brown versus Board of Education en 1954, par leur interprétation du même texte constitutionnel, parvinrent à l'unanimité à la conclusion inverse. Il s'avère que les juges de la Cour suprême faisaient bel et bien la loi, en permanence. Au fil des années, la presse et l'opinion publique ont commencé à s'intéresser de plus près aux décisions de la Cour suprême, et par extension, au processus de nomination des juges. En 1955, les démocrates du Sud, échaudés par l'arrêt Brown, ont institutionnalisé la pratique des auditions des candidats à la Cour suprême devant la commission judiciaire du Sénat afin de passer en revue leur positionnement juridique au préalable. En 1973, l'arrêt Roe versus Wade a focalisé un peu plus encore l'attention sur le processus de désignation des juges à la Cour, et chaque nomination a dès lors donné lieu à une véritable bataille rangée entre les défenseurs et les adversaires du droit à l'avortement. Le rejet ultra-médiatisé de la nomination de Robert Bork à la fin des années 1980, ainsi que les auditions du juge Clarence Thomas, accusé par Anita Hill, une ancienne collègue, de harcèlement sexuel, au début des années 1990, ont fait les choux gras des chaînes de télévision. Tout cela pour dire que, lorsqu'est venu pour moi le moment de remplacer le juge Souter, trouver un candidat qualifié était la partie la plus facile. Le plus difficile serait d'obtenir sa confirmation à la Cour suprême, en évitant de déclencher une foire d'empoigne politique qui risquerait de faire de l'ombre au reste de notre programme de réforme. Nous avions déjà mis en place une équipe d'avocats chargée de pourvoir les nombreux postes régulièrement vacants dans les cours de justice locales, et ils ont aussitôt commencé à dresser une liste exhaustive de candidats potentiels à la Cour suprême. En moins d'une semaine, nous avions réduit cette liste à une poignée de finalistes qui devraient se soumettre à une enquête du FBI sur leurs antécédents et venir passer un entretien à la Maison-Blanche. Parmi les candidats figurait Elena Kagan, avocate générale des États-Unis et ancienne doyenne de la faculté de droit de Harvard, et Diane Wood, juge à la Cour d'appel fédérale pour le 7e circuit, toutes deux d'éminentes juristes que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque où j'enseignais le droit constitutionnel à l'Université de Chicago. Mais en lisant les épais dossiers que mon équipe avait préparés sur chacun des candidats, c'est un autre nom qui a le plus attiré mon attention, celui de quelqu'un que je ne connaissais pas, Sonia Sotomayor, la juge à la Cour d'appel fédérale pour le 2e circuit. Originaire du Bronx et d'ascendance portoricaine, elle avait été élevée par sa mère, une opératrice téléphonique, qui finirait par décrocher son diplôme d'infirmière après la mort de son père, un ouvrier qualifié qui avait quitté l'école en CE2, survenu alors que Sonia n'avait que 9 ans. En dépit du fait qu'on ne parlait qu'espagnol chez elle, Sonia s'était révélée une élève brillante à l'école confessionnelle et avait obtenu une bourse pour entrer à Princeton. Elle y connaîtrait peu ou prou les mêmes expériences qu'avait vécu Michel dans la même université. Les doutes et l'impression au début de ne pas être à sa place, accentuée par son appartenance au très petit groupe de femmes issues des minorités sur le campus. L'obligation parfois de travailler 2 fois plus que les autres pour pallier les lacunes d'une éducation qui allait de soi pour les étudiants élevés dans un milieu plus privilégié. Le réconfort trouvé auprès de la communauté formée par d'autres étudiants noirs et grâce au soutien de certains professeurs. Et la prise de conscience, enfin, qu'elle était tout aussi intelligente que n'importe lequel de ses camarades. Après des études de droit à Yale, Sotomayor était devenue procureure du parquet de Manhattan et avait accompli à ce titre un travail de tout premier ordre, ce qui lui avait ouvert les portes des circuits judiciaires fédéraux. En 17 ans de carrière, elle avait acquis la réputation d'une juge rigoureuse, impartiale et pondérée, ce qui lui avait valu de se voir décerner les plus hautes distinctions de l'Association du barreau américain. Et pourtant, quand le bruit a commencé à courir que Sotomayor faisait partie des finalistes dont j'examinais la candidature, certains grands clercs du Cénacle judiciaire ont laissé entendre que ses références étaient inférieures à celles de Kagan ou de Wood, tandis que d'autres, dans des groupes d'intérêt aux inclinations politiques de gauche, doutaient qu'elle ait suffisamment de poids intellectuel pour tenir la dragée haute à des idéologues conservateurs tels que le juge Antonin Scalia. En raison peut-être de ma propre expérience dans les cercles judiciaires et universitaires, où j'avais croisé bon nombre d'individus bardés de références et au QI élevé qui n'en étaient pas moins des crétins, et où j'avais pu constater à quel point les critères étaient malléables lorsqu'il s'agissait de la promotion des femmes et des personnes issues des minorités visibles, je n'ai fait aucun cas de ces réserves. Non seulement la juge Sotomayor avait un parcours universitaire exceptionnel, mais je savais de quelle intelligence, de quelle détermination et de quelle souplesse avait dû faire preuve quelqu'un de son milieu d'origine pour arriver là où elle était. Une bonne dose d'expérience, une certaine connaissance des vicissitudes de la vie, autant de cœur que d'intelligence, voilà, pensais-je, d'où venait la sagesse. Quand on m'avait demandé pendant la campagne quelles étaient les qualités que je recherchais chez un candidat à la Cour suprême, j'avais parlé non seulement d'expertise dans le domaine juridique, mais aussi d'empathie. Les commentateurs conservateurs s'étaient moqués de ma réponse, dans laquelle ils voyaient la preuve que j'avais l'intention de remplir les bancs de la Cour de doux rêveurs gauchistes obnubilés par les réformes sociales et qui ne se souciaient pas de l'application objective de la loi. Mais à mes yeux, ils avaient tout faux. C'était précisément la capacité d'un ou d'une juge à saisir le contexte dans lequel s'inscrivaient ses décisions, à comprendre à quoi pouvait ressembler la vie d'une adolescente enceinte aussi bien que celle d'un prêtre catholique, d'un magnat de l'industrie comme d'un ouvrier en usine, des minorités aussi bien que du reste de la population, qui constituait la source de son objectivité. D'autres paramètres faisaient de Sotomayor un choix solide. Elle serait la première latino, et seulement la troisième femme, à siéger à la Cour suprême. Et elle avait déjà reçu par deux fois la confirmation du Sénat, dont une à l'unanimité, ce qui compliquait la tâche des républicains qui chercheraient à remettre en cause sa légitimité. Compte tenu de l'estime que j'avais pour Kagan et pour Wood, cependant, je n'avais toujours pas arrêté mon choix quand la juge Sotomayor est venue me voir dans le bureau ovale afin que nous fassions connaissance. Un visage avenant, le sourire facile, elle était d'une politesse toute protocolaire et choisissait ses mots avec soin, même si les nombreuses années qu'elle avait passées dans les grandes universités et sur les bancs des cours de justice fédérale n'avaient pas tout à fait estompé son accent du Bronx. Mon équipe m'avait recommandé de ne surtout pas sonder les candidats sur certains sujets juridiques spécifiques prêtant à la controverse tels que l'avortement. Les républicains siégeant à la commission ne manqueraient pas d'interroger les candidats à propos de nos conversations pour savoir si j'avais fondé mon choix sur ce genre de test révélateur. La juge Sotomayor et moi avons plutôt parlé de sa famille, de son travail en tant que procureur et de sa philosophie du droit de manière générale. À la fin de notre entretien, j'étais convaincu qu'elle était la candidate idéale, même si je me suis gardé de rien dire de tel sur le moment. En revanche, j'ai évoqué un point qui me posait problème dans son profil.
Quoi donc, monsieur le président ?
Vous êtes une supporter de l'équipe des Yankees, ai-je dit. Enfin bon, puisque vous êtes né dans le Bronx et que vous avez sans doute subi très tôt un lavage de cerveau, je suis disposé à fermer les yeux. Quelques jours plus tard, j'ai officiellement annoncé que j'avais choisi Sonia Sotomayor comme candidate à la Cour suprême. Les réactions ont été positives et dans les jours qui ont précédé son audition devant la commission judiciaire du Sénat, j'ai été satisfait de constater que les républicains avaient toutes les peines du monde à dénicher quoi que ce soit dans les archives ou la conduite de la juge qui soit de nature à mettre en péril sa nomination. Ils se sont toutefois emparés de deux autres sujets pour justifier leur opposition, tous deux liés à la question raciale. D'une part, un jugement rendu en 2008 à New Haven, dans le Connecticut, que Sotomayor avait confirmé en appel en déboutant un groupe de pompiers en majorité blancs qui avait porté plainte pour discrimination à rebours. D'autre part, un discours prononcé en 2001 à l'Université de Californie, à Berkeley, dans lequel elle avait affirmé que la présence de femmes et de personnes issues des minorités au sein de la magistrature apportait une perspective inédite à des tribunaux fédéraux qui en avaient grandement besoin. Les conservateurs ont sauté sur l'occasion pour déclarer qu'elle était incapable d'exercer sa charge de juge en toute impartialité. Malgré cette brève escarmouche, les auditions se sont déroulées sans accroc. La nomination de la juge Sotomayor a été confirmée par 68 voix contre 31, 9 républicains apportant leur soutien à celui de l'ensemble des démocrates à l'exception de Teddy Kennedy, que son cancer tenait éloigné des bancs du Sénat. Un vote qui s'apparentait pour ainsi dire à un plébiscite, étant donné le climat politique fortement polarisé dans lequel nous naviguions alors. Michel et moi avons organisé une réception en l'honneur de la juge Sotomayor et de sa famille à la Maison Blanche au mois d'août, après son investiture. Sa mère était présente et j'étais ému en songeant à ce que pouvait ressentir cette vieille dame qui avait grandi sur une île lointaine, qui parlait à peine un mot d'anglais à l'époque où elle s'était enrôlée dans la branche féminine de l'armée américaine et qui, en dépit de tous les obstacles dressés sur son chemin, avait tout fait pour que ses enfants accèdent à la réussite et à la reconnaissance. Son parcours me faisait penser à celui de ma propre mère, à celui de Toot et de Gramps, et j'ai éprouvé un élan de tristesse en songeant qu'aucun d'entre eux n'avait eu l'occasion de vivre un jour semblable, qu'ils avaient quitté ce monde avant d'avoir vu se réaliser les rêves qu'ils avaient jadis formés pour moi. Tandis que je m'efforçais de tenir la bride haute à mes émotions en écoutant la juge s'adresser aux invités, j'ai tourné la tête vers deux jeunes et beaux garçons américano-coréens, les neveux adoptifs de Sotomayor, qui se tortillaient dans leurs habits de fête. Pour eux, le fait que leur tante siège à la Cour suprême des États-Unis et contribue à tracer les grandes lignes du destin de la nation serait une évidence. Pour eux, comme pour tous les enfants de leur génération, partout dans le pays. Et c'était très bien ainsi. C'est à ça que ressemble le progrès.